Mercredi.
Mercredi.
Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Tu connais même pas les inventions de l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
On est où là, professeur Popo?
Eh bien, nous sommes à Brest, mais Brest, où est-ce que c'est?
Pourquoi je t'ai appelé professeur Popo?
Je ne sais pas. Pourquoi Popo d'ailleurs? Océanopolis, ouais, je pense.
On est où là, professeur Fifou? Attendez, parce que professeur Fifou, permettez-moi de vous appeler professeur Popo.
Eh bien, nous sommes à Brest. Eh bien, nous sommes à Brest, et Brest se situe en France. C'est la plus grande ville du département du Finistère, presque à la pointe de la Bretagne. Brest est séparée en deux par la Penfeld. Qu'est-ce que la Penfeld? C'est un fleuve qui donne deux quartiers. En gros, il divise Brest en deux, Brest et Recouvrance. Pour relier ces deux quartiers, il y a deux ponts, le pont de Recouvrance et le pont de l'Arteloire. Et aussi, il y a un téléphérique qui permet de le traverser en 3 minutes. Traverser quoi? Traverser le fleuve.
Bonjour Flore.
Bonjour, alors moi je suis Flore Samaran, je suis enseignante-chercheure dans une école d'ingénieurs ici à Brest, donc qui s'appelle ENSTA Bretagne, une école d'ingénieurs généralistes.
Explique-nous ton métier de chercheuse acousticienne.
Alors moi, mon métier, c'est d'être... je suis enseignant-chercheur. J'enseigne dans l'école d'ingénieurs dans laquelle je suis. Et puis, je fais aussi de la recherche. Et mon domaine, c'est plutôt la bioacoustique et le suivi des populations de baleines en utilisant le son qu'elles produisent sous l'eau. Ici, aujourd'hui, on est dans le pavillon Bretagne à Océanopolis.
Hop, 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 hop. Attendez là. J'appelle le professeur Fifou. On a besoin d'une petite précision. Une présentation scientifique de l'océano.
Océanopolis. Océano quoi? Océanopolis.
Océanopolis.
Professeur Fifou, c'est à vous.
Oui, bonjour. L'Océanopolis, qu'est-ce que c'est? C'est un parc scientifique de découverte des océans. On y trouve donc 3 pavillons. Un pavillon polaire, animaux venant des pôles nord et pôle sud, les manchots, les phoques, les poissons. Un pavillon tropical, animaux des tropiques, par exemple les requins, les poissons du lagon. Ainsi qu'un pavillon Bretagne, les méduses, les raies, les phoques. Sur leur site web, j'ai pu relever quelques chiffres. Pour les 77 aquariums, c'est 4 millions de litres d'eau de mer. 1000 espèces pour les 10 000... Pardon. 1000 espèces. Oui. 1000 espèces différentes. 1000 espèces. L'Océanopolis, c'est également 1000 espèces différentes pour 10 000 animaux marins.
C'est quoi le matériel que tu utilises, Flore?
Alors, pour enregistrer des sons de baleines, il faut, comme un enregistrement à terre, sauf qu'il faut qu'il soit étanche. Donc, ce n'est pas un microphone, c'est un hydrophone. Et puis, comme on va laisser l'instrument longtemps sous l'eau, l'hydrophone, il doit avoir un micro, une partie qui enregistre et stocke la donnée, et puis une partie aussi qui va alimenter tout ça. Donc, beaucoup, beaucoup de piles. Pour pouvoir tenir en autonomie, donc ça veut dire sans avoir à changer d'instrument pendant une année à peu près.
Mais quand on est sous l'eau, on entend quoi?
Alors si on met sa tête sous l'eau, on va entendre ce qu'on appelle le paysage sonore sous-marin. Et le paysage sonore sous-marin, il va être fait de sons à la fois de poissons, de baleines, de crevettes, de crustacés. Ça, c'est le son biologique, la biophonie. Après, on va pouvoir aussi entendre tous les sons d'origine naturelle, comme un tremblement de terre, un crissement d'iceberg, la pluie qui tombe sur l'eau, la déferlante des vagues. Ça, c'est ce qu'on appelle la géophonie. C'est des sons d'origine terrestre qui ne sont pas biologiques. Et puis, on va aussi entendre un passage de bateau, des signaux un peu réguliers qui sont émis sous l'eau et qui sont le plus souvent émis par l'homme. Enfin, qui sont émis par l'homme. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'anthropophonie. Donc, c'est ces trois composantes qu'on va entendre si on met sa tête sous l'eau. C'est ce qu'on appelle le paysage sonore sous-marin.
Comment les baleines produisent-elles du son ? Enfin, avec quoi ?
Alors, il y a deux grandes sortes de baleines. Il va y avoir des baleines à dents. Des baleines à dents qui mangent du poisson. Et donc, elles ont deux systèmes pour produire du son. Elles vont avoir un système de sifflement. Donc, elles vont siffler pour appeler leurs copains et tout ça, ou pour maintenir la cohésion entre les groupes, ou pour essayer de se repérer entre eux. Et puis, elles ont un autre système. C'est plus compliqué. C'est un sonar, une sorte de radar qu'elles ont dans leur tête pour repérer justement le poisson qu'il faut qu'elles chassent. Ça, c'est les baleines à dents. Et après, il y a une autre sorte de baleine, enfin un autre, on appelle ça un sous-ordre, les mysticètes, les baleines à fanons, qui, elles, mangent des toutes petites crevettes. Elles en mangent des tonnes et des tonnes. Et elles émettent, elles n'ont pas ce radar-là, elles n'en ont pas besoin. On ne sait pas comment elles font pour se repérer. En tout cas, elles vont avoir un système de production de son qui sera différent des odontocètes, qui sera plus comme un peu des cordes vocales, un peu comme nous.
Ah d'accord, le sonar, en fait, c'est le radar pour repérer les poissons.
Ouais, repérer, ouais. C'est vraiment, c'est comme dans Nemo, enfin, je sais pas, dans le monde de Dory, où le beluga, il cherche son radar. Bah oui, oui, c'est ça, il cartographie l'environnement, quoi. C'est un outil, hein, c'est vraiment... Et donc, parce qu'elles n'ont pas du tout la même biologie, en fait, ces deux sous-ordres de cétacés-là, bon, elles n'ont pas les mêmes outils, en fait, pour... Mais elles produisent tous les deux du son, elles utilisent tous les deux le son, c'est très important pour eux, quoi.
Alors, est-ce que tu savais que les baleines ont été des animaux terrestres à un moment de leur vie, et puis qu'elles sont retournées à l'eau ?
En fait, c'était des animaux terrestres, ça s'apparentait, donc Pachycetus, c'est le plus ancien, en tout cas, squelette de baleine qu'on ait retrouvé. Donc il avait deux bras, deux jambes, hein, enfin deux membres postérieurs et deux membres inférieurs, et une queue aussi déjà. Et puis, il est retourné, enfin, en tout cas, on pense que c'est un mammifère qui est retourné à l'eau. Et ça, c'est, enfin, juste ça, je trouve que c'est incroyable, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces qui sont retournées. Les espèces, elles avaient plutôt tendance à sortir de l'eau. Mais eux, c'est le mammifère qui est retourné à l'eau. Donc, ça ressemblait un peu, on parle un peu comme un ongulé, enfin, je ne sais pas trop, je ne saurais pas dire à quoi ça ressemble. Pachycetus, il s'appelait.
C'est l'heure du professeur Fifou qui va nous parler du Pachycetus. Yeah.
Focus Pachycetus. C'est un cétacé ongulé terrestre qui a disparu. Qu'est-ce qu'un cétacé ongulé ? C'est un mammifère qui possède un sabot avec des ongles ou des griffes. Il était carnivore charognard. Il vivait au Pakistan, il y a environ 55 à 40 millions d'années. Son squelette a été découvert en 1983. Il mangeait des poissons et se reproduisait sur Terre. Il faisait de la taille d'un renard à un loup avec une tête de baleine. Il s'agit donc de l'ancêtre de la baleine. Mais comment sait-on cela ? En étudiant les fossiles, on s'aperçoit que le squelette s'est transformé au cours du temps jusqu'à s'adapter à la vie aquatique.
Donc le Pachycetus, c'est l'ancêtre de la baleine ?
Effectivement.
Est-ce qu'on connaît d'autres animaux qui auraient aussi évolué pour retourner vers la mer ?
Oui, alors il y a par exemple l'Ambulocetus natans. Autrement dit, la baleine qui marche à quatre pattes, elle se déplaçait à la fois sur terre et dans l'eau, comme le crocodile, quoi, il y a environ 50 millions d'années. Mammifère prédateur, long de 3 mètres, il nageait comme une loutre. Cet animal a évolué de manière à ce que ses membres, pattes avant, se transforment en nageoires et les pattes arrière ont totalement disparu.
Et l'évolution a façonné son corps pour qu'il s'adapte au milieu marin, quoi. Qu'il s'affranchisse de la pesanteur, des problèmes de poids et tout ça. Et puis, tout son corps s'est transformé. Mais si on regarde une nageoire de baleine, en fait, on retrouve tous les os de nos mains, par exemple. dit genre le nez, évidemment, son nez, il a migré en haut de la tête parce que c'était plus pratique pour sortir de l'eau. Après, il y a tous les changements physiologiques aussi. Et il a perdu tous ses poils, il a plein de gras pour s'adapter au milieu marin.
Mais Flore, tu as déjà rencontré des baleines ?
Quand on travaille en acoustique passive sur les baleines, on fait partie de ces scientifiques qui ne les voient pas souvent. Je veux dire par là qu'en fait, on met notre instrument à l'eau, on le récupère, on n'a pas toujours besoin de voir les animaux en fait. Donc ça peut être un coup de chance, par exemple, quand on va déployer un instrument, que dans une zone où on sait qu'il y a beaucoup de baleines, on va pouvoir les voir. Moi, par le passé, j'en ai vu parce que je travaillais sur des réseaux d'hydrophones câblés, notamment au Canada, où du coup, j'ai eu l'occasion d'en voir. Après, j'ai pas toujours utilisé de l'acoustique passive statique. Donc statique, c'est-à-dire quelque chose qui reste au fond. J'ai aussi utilisé des enregistreurs qu'on jette à l'eau et puis qu'on récupère tout ça. Et donc ça m'a permis aussi de rencontrer des baleines bleues pygmées en Australie. Et puis des orques aussi en Alaska. Ouais.
Est-ce que c'est toi qui vas installer le matériel sous l'eau ?
Maintenant, j'ai des enfants, du coup, je fais plus de missions de terrain. Parce qu'en général, quand on fait des missions de terrain, c'est assez long, il faut partir plusieurs semaines. C'est souvent des expéditions, on s'associe avec des océanographes pour avoir le bateau et tout ça. Donc, on part assez longtemps. Et non, la dernière que j'ai faite, c'était il y a 3 ans. Je suis partie sur le Marion Dufresne pour récupérer justement le réseau d'hydrophones qu'on a dans l'océan Indien. Donc on a un grand réseau d'hydrophones et on utilise le navire océanographique Marion Dufresne pour récupérer et remettre notre matériel. Mais mes étudiants, ils partent tous et ils sont trop contents.
Professeur Popo, c'est quoi le Marion Dufresne ?
Depuis 1995, le Marion Dufresne part en mission 337 jours par an. Il affronte les terribles tempêtes de l'océan Antarctique et il ravitaille les bases des pôles sud et nord. Le Marion Dufresne, c'est un navire français. Il est basé à l'île de la Réunion. Il réalise des missions de recherche océanographique, comme par exemple pour Flore et ses micros.
J'ai deux personnes qui travaillent avec moi qui partent au Chili pour poser des balises sur le dos des baleines, des balises acoustiques. Donc c'est une balise, c'est une ventouse. Donc ça se pose sur le dos de la baleine et il y a un capteur qui va enregistrer le son donc de la baleine et des baleines autour d'elle.
À quoi servent les sons récoltés ?
Ça dépend. En fait, ça va dépendre des espèces. Alors moi, j'utilise l'acoustique passive pour être un peu des yeux là où on peut pas en avoir. Donc je vais mettre des oreilles sous l'eau pour savoir si à cet endroit-là il y a des baleines qui passent. Donc je travaille dans des zones qui sont très très éloignées. C'est le sud de l'océan Indien. Donc à chaque fois que j'entends des signaux de baleines, je vais dire ok, la baleine là, cette espèce-là, elle arrive, cette espèce-là, elle repart parce que c'est des baleines qui migrent. Donc ça peut être une façon d'utiliser l'acoustique passive. C'est la façon sur laquelle j'utilise, c'est parce que c'est dans des zones trop éloignées pour faire des observations visuelles, parce qu'elles émettent des sons sous l'eau tout le temps, donc c'est plus facile à étudier en mettant un micro sous l'eau.
On apprend quoi sur les baleines ?
J'ai un collègue qui essaye de comprendre comment les orques font pour voler du poisson à des pêcheurs autour de Crozet et Kerguelen, parce qu'il y a une flotte de bateaux, il y a 7 ou 8 bateaux, et ils ont un problème, c'est que les orques viennent voler, quand ils remontent les lignes de pêche, les orques viennent voler le poisson. Alors les pêcheurs, c'est un manque à gagner pour eux. Pour les orques, comme c'est des animaux qui sont très culturels, qui sont très, très dans l'apprentissage des techniques de chasse et tout ça, ça peut devenir un problème pour eux d'avoir cette nourriture. Et donc, on a travaillé sur des observations visuelles depuis le bateau pendant plusieurs années. Et là, on commence à se dire, peut-être qu'on en saura plus si on met des micros sous l'eau, comment ça se passe et tout ça. Donc, on a tout un programme aussi de recherche là-dessus. Après, il y a des gens qui utilisent... après, ça dépend vraiment des espèces, quoi. Ça dépend de ce qu'on veut faire, quoi.
Et c'est quoi ton son préféré ? De quel animal ?
C'est pas facile, hein. Parce que j'adore la baleine bleue. Tout à l'heure, j'ai redit encore, j'adore la baleine bleue parce que c'est ma chouchou, c'est celle sur laquelle j'ai le plus travaillé. Mais par contre, j'ai écouté récemment, et j'en ai fait écouter tout à l'heure, des sons de baleine boréale, et j'ai trouvé que c'était incroyable, quoi. C'est vraiment des sons magiques. Et j'ai une collègue qui travaille en Arctique, qui en enregistre beaucoup, beaucoup, et c'est des sons qu'on n'entend pas souvent. Et puis j'adore les sons d'orques, évidemment. C'est mes chouchous aussi.
Merci beaucoup, Flore. J'adore ton métier et j'ai très hâte d'apprendre de nouvelles choses grâce aux sons.
La baleine chante et ronronne aussi.
One.
J'aime écouter la radio mercredi.
Two.
Flore a préparé un quiz. À vous de deviner de quel son il s'agit. N'oubliez pas, nous sommes bien sous l'eau. Il s'agit d'un bateau, d'une soucoupe volante, de la baleine bleue, ou s'agit-il d'un phoque ?
Alors, qui c'est qui vote pour le bateau?
Ah non.
Qui c'est qui vote pour la soucoupe volante? Ah, toujours. Qui c'est qui vote pour la baleine bleue? Et qui c'est qui vote pour le phoque? Ouais. C'était un phoque bébé.
C'était bien un phoque, et non un sabre laser? Bravo, test suivant. S'agit-il d'une baleine bleue? D'un iceberg? D'un orque? Ou bien de crevettes? La réponse était bien iceberg. C'est en fait un glacier qui se sépare en iceberg. Le son a dû être accéléré 30 fois, sinon, c'est tellement lent que l'oreille humaine n'aurait rien entendu. De quoi s'agit-il? De crevettes? D'un sous-marin? Ou bien de sifflement d'orque? Et oui, ce sont bien des sifflements d'orque. C'est beaucoup, beaucoup trop mignon leur bruit.
Ouais, une soucoupe volante bleue, attention. Là, c'est vraiment la signature vocale des baleines bleues antarctiques. Donc, elle répète ce signal sans arrêt, toujours le même. Ça dure assez longtemps, là, c'est accéléré 10 fois. Le signal dure 20-25 secondes. Et il y a une minute entre chaque signaux. Et elle répète ça sans arrêt. Elle arrête quand elle va respirer en surface, puis après elle reprend. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qu'elle dit.
One breath away from Mother Oceania. Your nimble feet make prints.
Thank you.
longtemps, j'ai contemplé l'océan sans le comprendre. Je ressentais l'énergie immense de ses eaux. Je m'étonnais de la profondeur de ses bleus. Je respirais l'air du large. Mais en réalité, je ne voyais rien. Aujourd'hui, devant l'océan, je ne vois plus que moi, l'humanité. Climat, surpêche, épuisement des ressources, pollution. Ma propre course m'entraîne loin, beaucoup trop loin. Et moi, je veux rester sur Terre. Je veux être là demain.
Vous venez d'écouter la bande-annonce du film Planète Océan, réalisé par Yann Arthus Bertrand et Michael Pitiot. Protégeons notre belle planète bleue. Bisous, à la semaine prochaine dans Mercredi.
Mercredi. Mercredi. Mercredi. Mercredi. Mercredi. Mercredi. Mercredi.